Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julie Delabrosse, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade et Louis Drillon. À la réalisation, Elisabeth Miro. Prise de son, Jean Frédérics.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
L'actualité écho décryptée par des acteurs et des chercheurs en sciences sociales, c'est tous les vendredis à 14h dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Aujourd'hui, on s'intéresse au nouveau roi du pétrole, à l'heure où les cours de l'or noir flirtent avec les 80$ contre 30$ il y a seulement 2 ans. Une augmentation massive qui intervient alors que la planète atteint des records de production, 100 millions de barils par jour cet été, et cela en raison de l'explosion du pétrole de schiste américain. Jamais la consommation de brut n'avait été aussi forte et jamais les objectifs de l'accord de Paris sur le climat n'avaient semblé aussi lointains. Quelles pourraient être les conséquences de cette double hausse des prix et de la production de pétrole? Quels seront les effets de l'alliance inattendue entre l'Arabie Saoudite et la Russie contre le pétrole de schiste américain? Et comment les États-Unis, redevenus cet été les premiers producteurs mondiaux de brut, peuvent-ils y répondre? Voilà les questions que l'on va se poser dans l'heure qui vient. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Le retrait de l'État par Susan Strange, un livre majeur pour comprendre la répartition du pouvoir dans l'économie mondiale, comme nous l'expliquera Christian Chavagneux. Les nouveaux rois du pétrole, on en parle avec nos trois invités. Bonjour Philippe Chalmin.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire économique à l'Université Paris-Dauphine et vous êtes l'un des grands spécialistes français des matières premières. Vous avez écrit plus d'une quarantaine d'ouvrages, dont Le poivre et l'or noir et Le monde à faim chez Bourin Éditeur. À vos côtés, Marc-Antoine Elmazega, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre Énergie de l'IFRI et vous avez travaillé à l'Agence Internationale de l'Énergie, l'AIE, où vous étiez notamment en charge de la Russie et de l'Afrique subsaharienne. Et enfin, avec nous en duplex de Strasbourg, Alexandre Andlauer, bonjour. Alors Alexandre Andlauer va nous rejoindre dans un instant. D'abord un premier mot sur cette production historique de pétrole et sur cette hausse des cours. Selon les derniers chiffres, on a un baril qui s'établit à 79$. Alors comment expliquer d'abord l'explosion de la production et comment comprendre qu'elle n'ait pas plutôt provoqué une chute des prix, Philippe Chalmin?
Tout simplement parce qu'un prix, à un moment donné, c'est la rencontre entre une offre et une demande, et que face à l'augmentation de la production, qui n'est quand même pas si colossale que cela, même si symboliquement nous tutoyons la barre des 100 millions de barils jour, bien c'est que nous avons une augmentation de la demande, en particulier, alors non pas tant dans nos vieux pays que dans les pays émergents. Au mois de juillet, la Chine a à nouveau battu des records d'importation de pétrole et elle se situe aujourd'hui sur un niveau de 8,5 millions de barils jour, la Chine étant le premier marché automobile mondial. Comme ce sont pas encore totalement des voitures électriques et plus du tout des voitures à pédales, il faut bien qu'il y ait un peu d'essence dans ces moteurs-là.
Donc une augmentation de la demande, vous l'avez dit, mais alors il y a aussi la chute spectaculaire de la production de pétrole au Venezuela, le Venezuela qui dispose des premières réserves mondiales, Marc-Antoine Elmazega.
Alors la crise au Venezuela durait déjà depuis un certain temps, mais il est évident qu'on assiste à une aggravation sans précédent de cette crise qui atteint toute la société, évidemment, toute l'économie, mais qui atteint en premier lieu la société PDVSA. Un grand nombre de ses ingénieurs, de ses cadres ont fui. Des généraux dirigent la société sans aucune expérience dans ce domaine. C'est véritablement un effondrement de ce pays qui a des ressources absolument extraordinaires et qui du coup est en porte-à-faux aussi de ses obligations de fourniture à la Chine, notamment, qui avait conclu des accords de prépaiement importants.
Et ce qu'il faut citer évidemment aussi, c'est l'embargo pétrolier strict sur les exportations de pétrole de Téhéran, qui est prévu pour novembre, qui a été décidé par les États-Unis. Un embargo qui devrait être respecté. Résultat, ce qu'on voit, c'est que les exportations iraniennes sont déjà en chute libre, Philippe Chalmin.
Oui, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans, l'OPEP a décidé de essayer de reprendre le contrôle du marché en mettant en place des quotas. Et l'OPEP a eu énormément de chance, parce qu'elle a eu la chance d'avoir effectivement l'effondrement de la production du Venezuela. Elle a eu la chance d'avoir la crise libyenne. Alors le Venezuela, grossièrement, il a quand même enlevé 1 million de barils jour au marché. La Libye, suivant les mois, ça se balade entre 500 et 700 000 barils jour du marché. Et là-dessus, ce brave monsieur Trump qui nous apporte l'embargo sur l'Iran. Alors l'Iran continue à produire, certes, mais le problème, c'est qu'un certain nombre de pays qui ont plutôt le doigt sur la couture du pantalon quand ils regardent les États-Unis, ben, se sont sentis obligés de réduire leurs importations. Alors ça, on le savait, grossièrement, les exportations de l'Iran, c'est un tiers à la Chine. Donc là, la Chine, bah, ça, il continue. C'est un tiers l'Inde, et l'Inde a déjà commencé à réduire ses importations, et c'est un tiers le reste du monde. Le résultat, aujourd'hui, les chiffres du mois d'août, nous montrent que l'Iran a diminué ses exportations par rapport au maximum qu'il avait atteint au mois de mars dernier, de l'ordre de 700 à 800 000 barils jour. Donc, si vous ajoutez tout ça, même en tenant compte de l'augmentation de la production en Irak, même en tenant compte ce dont nous allons parler, c'est-à-dire du pétrole de schiste américain, eh bien, ça donne un marché qui est tendu, ça donne aussi suffisamment d'incertitudes pour que nombre d'opérateurs, d'investisseurs, de, ouvrez les guillemets, spéculateurs, se disent, eh bien, nous sommes plutôt haussiers sur le marché, et c'est ce qui explique les tensions que nous vivons. Alors, sachant que quand vous dites le pétrole flambe, on est à un peu 80 dollars le baril pour le Brent. Sur le marché américain, on est 10 dollars de moins quand même. Et puis, il faut relativiser. D'accord, il y a 2 ans, on était à 30 dollars. Mais il y a 10 ans, nous avons atteint les 147 dollars le baril. Et pendant longtemps, entre 2011 et 2014, pendant 3 ans, on s'est tenu dans la zone des 100, 110 dollars le baril. Donc, relativisons, oui, le pétrole est cher, mais il a été beaucoup plus cher par le passé.
Alors le phénomène essentiel, vous l'avez dit, c'est l'explosion du pétrole de schiste aux États-Unis, où on assiste à une véritable ruée vers l'or noir au Texas.
J'ai dépensé 11 millions de dollars sur ce puits. Et on espère extraire 1 million de barils, juste avec celui-là. Mais comme on va l'exploiter 30 ans, 50 ans, on va faire de 50 à 55 millions de dollars de bénéfices. Ici, il va y avoir une rue. On en fait une autre dans ce sens-là. Toutes les maisons à construire sont déjà vendues. Les gens achètent des maisons, mais on n'arrive pas à les construire assez vite. Regardez ces deux terrains, ils sont déjà vendus. On attend juste l'autorisation de la ville et dès qu'on l'a, on commence les travaux. C'est comme ça tous les jours.
Extrait d'un reportage de France Info diffusé le 30 mai dernier. Grâce au pétrole de schiste, les États-Unis sont donc redevenus les premiers producteurs mondiaux de pétrole, dépassant l'Arabie Saoudite puis la Russie. Marc-Antoine Elmazega.
Absolument, c'est un boom sans précédent qui tire d'ailleurs la croissance économique américaine. Ce boom s'explique par plusieurs facteurs. D'abord des ressources exceptionnelles qui sont ces huiles de schiste que l'on a su développer avec des techniques sans cesse améliorées.
Des technologies sous le mandat d'Obama d'ailleurs.
Oui, alors c'est des technologies anciennes qui ont été améliorées, perfectionnées pour renforcer l'efficacité, la productivité des différents puits. Il y a eu évidemment un engouement sans précédent, financier, humain, etc. Et aujourd'hui, ce boom se poursuit. Les États-Unis vont probablement ajouter plus 1,8 million de barils jour de brut cette année à leur production qui, comme vous l'avez dit, est la première au monde. Donc ça, c'est absolument considérable. Ça s'étend d'ailleurs aussi au Canada. Alors, il y a un certain nombre d'incertitudes, il y a un certain nombre de goulots d'étranglement, par exemple, dans la capacité du système d'oléoduc américain à transporter tout ce pétrole vers les ports, dans la capacité du système ferroviaire américain à transporter le sable, à transporter, à retraiter l'eau, et puis les coûts de la main-d'œuvre évidemment, qui, à mesure que les prix montent, que la production monte, les ingénieurs, les différents opérateurs réclament plus. Et donc tout cela fait peser un certain nombre de défis. Mais enfin, oui, il y a un boom pétrolier qui se poursuit.
Alors on va y revenir, mais ce qu'il faut dire, c'est que si les États-Unis sont redevenus les premiers producteurs mondiaux de pétrole, en revanche, l'Arabie Saoudite est toujours le premier exportateur de brut à l'heure actuelle, Philippe Chalmin, parce que la consommation interne de pétrole continue de croître aux États-Unis.
Tout à fait. Néanmoins, les États-Unis restent un importateur net de pétrole, ça faut quand même le rappeler, mais ils commencent à développer leur capacité à l'exportation. Et ce que vous disiez est tout à fait exact. Ils ont simplement, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, malgré l'augmentation de la production pétrolière américaine. Je suis un peu moins optimiste que vous. L'Agence américaine de l'énergie table sur une augmentation de la production américaine cette année de 800 000 barils le jour. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des puits forés mais qui ne les ont pas encore mis en production parce qu'il y a ce goulot d'étranglement que vous avez signalé, qui est celui de la logistique. Aujourd'hui, le problème américain n'est pas de produire, c'est de sortir par oléoduc, mais ça prend du temps à construire. Et alors, en plus, il se trouve que Monsieur Trump a taxé les importations de l'acier dans lequel sont faits les oléoducs. Vous voyez, il y a des petites choses amusantes. Et donc, à la limite, aujourd'hui, plutôt que d'être économiste pétrolier, cher ami, nous devrions être camionneurs. Car aujourd'hui, le pétrole, il sort comment? Il sort par camion. Et on me dit qu'à l'heure actuelle, un chauffeur de camion dans le Texas, c'est 110 000 dollars par an. Donc, cela fait quand même un petit peu rêver. Et donc, on a cet énorme goulot d'étranglement qui explique quand même un petit peu que sur le court terme, la production américaine, elle reste un peu capée. Et en plus, ils ont des problèmes à l'exportation. Ils n'ont pas de terminaux d'exportation, puisque c'était pas, ils sont pas équipés, par exemple, pour recevoir des très gros tankers. Et alors, on commence à les construire, mais ça va prendre du temps, ça aussi.
Alors, Alexandre Andlauer nous a rejoint. Il est en duplex de Strasbourg. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes analyste chez Kapler, spécialiste du pétrole, et vous connaissez bien le bassin permien au Texas, donc le berceau de cette seconde révolution du schiste américain. Et justement, alors, qu'est-ce que vous avez constaté sur place? Les États-Unis font face, en effet, à des gros problèmes d'infrastructure.
Ah oui, évidemment, et c'est un peu une crise de croissance parce que il y a beaucoup trop de pétrole qui est en train de sortir par rapport à la capacité du bassin de Midland, du bassin de Permian à ramener tout ce pétrole vers les côtes. Mais je crois que, vous savez, aux États-Unis, les problèmes durent jamais trop longtemps. Et vous avez le prix du pétrole dans le bassin de Permian qui a rebondi depuis 10 jours, tout simplement parce qu'il y a une société de pipeline qui s'appelle EPIC, qui a annoncé que potentiellement, ils allaient changer une de leurs pipelines qui était initialement prévue pour le gaz liquide en pétrole. Ce qui pourrait un peu changer la donne à partir du mois d'avril prochain. Ceci étant, ça va pas changer tout le problème. C'est que 400 000 barils de plus. Mais globalement, oui, il y a trop de pétrole qui est sorti par rapport aux capacités, mais ça restera à un moment un épiphénomène parce qu'on parle d'un problème pour 8 à 12 mois. Après, il y aura de nouveau toutes les capacités pour en extraire. Les solutions de court terme qui sont les camions, j'y crois pas trop parce qu'il y a des accidents très souvent. On parle de 100 000 barils, donc c'est rien du tout par rapport à ce que le bassin de Permian peut produire. Il y a les trains également. Mais ça coûte un peu plus cher.
Mais ce qui est sûr, Alexandre Andlauer, c'est qu'on a vu que Donald Trump mettait en place un certain nombre de mesures de soutien pour encourager la production de pétrole. Mais il est en quelque sorte coincé parce qu'en même temps, il craint, il redoute cette hausse du prix des carburants à cause des élections de mi-mandat qui arrivent, puisque ça va forcément peser sur la consommation des Américains.
Oui, je pense que la forte croissance des acteurs de schiste, elle tient pas en Trump, elle tient au prix du pétrole. C'est vraiment le prix du pétrole, le rebond qui a fait que cette industrie est revenue très forte. Alors, il est évidemment dans un paradoxe parce que d'un côté, il essaie de faire baisser, il y arrive pour l'instant, les exportations de l'Iran. De l'autre côté, le premier pays consommateur au monde, c'est les États-Unis. Il y a les élections dans 2 mois, donc c'est un dilemme pour lui. Je suis pas sûr qu'il puisse s'en sortir parce que ce qu'on perd en Iran, ça commence à être trop gros. Le pétrole de schiste ne peut pas tout.
Alors, à grands coups de tweet, en tout cas, il ne cesse de demander aux pays de l'OPEP de baisser les prix. Mais alors, pour que les prix baissent, il faudrait que ces pays s'accordent sur une hausse de la production. Or, lorsque les prix avaient chuté à partir de 2014, les pays de l'OPEP avec la Russie s'étaient accordés, c'était début 2017, sur une diminution de la production, Philippe Chalmin. Donc, on attend aujourd'hui de voir s'ils peuvent à nouveau se positionner sur une augmentation de cette production.
Oui, alors, ils se sont positionnés d'ailleurs en juin dernier. Il y a eu une réunion de l'OPEP où ils ont décidé d'une augmentation de la production.
Mais une augmentation limitée.
Oui, mais de toute manière, il n'y a à la limite que l'Arabie Saoudite qui en est sous le pied. La Russie, au mois de juillet, a eu une production de 11,2 millions de barils jour. Pour ça que ça dépend si on compte le pétrole brut, si on compte les distillats derrière. Pour moi, la Russie reste légèrement devant encore les États-Unis comme premier producteur mondial. Mais en tout cas, ils sont à leur niveau quasiment record depuis l'implosion de l'URSS. Donc je ne suis pas sûr que la Russie ait tellement de, mais vous devez connaître cela beaucoup mieux que moi, ait tellement de moyens d'augmenter. Alors l'Irak monte en puissance, c'est clair, mais l'Irak ne compensera pas totalement les pertes de l'Iran. Les autres n'ont quasiment aucune marge de manœuvre. Alors la vraie question est de savoir, normalement l'Arabie Saoudite en a les moyens, et l'Arabie Saoudite, c'est aussi un peu son intérêt. Parce que il faut que vous remettiez ça dans le pétrole, il faut le remettre dans le grand jeu du Moyen-Orient. Et alors c'est assez curieux, cette alliance que vous avez dit improbable entre l'Arabie Saoudite et la Russie, sachant que la Russie est alliée de l'Iran sur le terrain en Syrie, que l'Iran est en quasi-conflit armé au travers du Yémen avec l'Arabie Saoudite, et donc l'Arabie Saoudite n'a probablement aucune envie, alors que ils sont au niveau d'un prix de marché qui leur permet à peu près d'équilibrer leurs comptes. Hein. Ils ont un niveau qui leur permet à peu près de s'en sortir. Ils n'ont aucune envie de voir le prix du pétrole monter trop, parce que ça risquerait, un, de tuer la demande, et deux, d'être une sorte de bouée de sauvetage pour leurs meilleurs ennemis que sont les Iraniens.
Et en même temps, l'Arabie Saoudite a besoin de que les cours restent hauts pour financer son grand programme de réforme Vision 2030, qui vise justement à s'affranchir de la rente pétrolière. Par ailleurs, elle a beaucoup souffert aussi de la chute des prix du pétrole à partir de 2014. Et pour la Russie, que vous connaissez bien, Marc-Antoine Elmazega, le problème, c'est que la Russie souffre de sanctions, des sanctions financières occidentales, des difficultés économiques propres au pays. Donc elle a besoin, elle aussi, que ses cours demeurent hauts.
Absolument. L'alliance OPEP Plus a été mentionnée, c'est cette alliance relativement improbable, effectivement d'ailleurs aussi, entre les pays de l'OPEP et puis un certain nombre d'États non OPEP producteurs comme la Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est le Venezuela, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, le Nigeria, l'Angola ont tous connu au cours des deux dernières années des périodes de récession économique liées justement à leur dépendance à cette rente pétrolière qui s'est tarie. La Russie est dans une situation paradoxale, c'est que tout le monde s'attendait à ce que sa production s'effondre ou du moins soit fortement touchée par les sanctions occidentales qui ont été mises en place en 2014. Or, en fait, c'est la réalité, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que sa production a continué de croître à des niveaux records, atteignant là pratiquement prochainement le record historique de l'Union soviétique qui incluait les autres républiques. Et la raison à cela est assez simple, en fait, et n'avait pas été envisagée par ceux qui ont mis en œuvre ces sanctions. C'est qu'en fait le rouble s'est très fortement déprécié, les coûts des entreprises pétrolières russes sont en rouble, ces coûts-là ne sont en fait très peu en dollars, ce qui fait qu'en fait malgré la baisse de leurs revenus en dollars, avec l'effet du taux de change, leurs revenus en roubles qui leur permettent d'investir, en fait ce revenu-là, cette base de revenus a largement augmenté. Et donc ils ont investi dans les forages et ils ont monté leur production et ils vont pouvoir encore augmenter probablement de 200 à 300 000 barils jour leur production ces prochains mois.
C'est-à-dire vous les voyez à 11,5 là je
Ah oui, bien
pose
sûr.
Une question. Vous les voyez
oui,
à 11,5
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, absolument. Et alors ils auraient déjà été à 11,5 s'ils n'avaient pas décidé avec les Saoudiens de bloquer leur production au niveau qu'on a eu toute l'année dernière, c'est-à-dire à peu près 11,3, ça dépend comment ou quel calcul on prend, mais absolument, ils peuvent encore monter parce qu'il y a tout un tas de champs dans l'Est sibérien qui ont été préparés à la mise en production et qui vont être lancés là bientôt.
Alexandre Andlauer, les pays de l'OPEP et leurs partenaires doivent se réunir ce dimanche à Alger. On peut s'attendre alors à une nouvelle hausse de la production comme celle qui a été décidée en juin dernier ?
Je suis pas sûr qu'on puisse avoir une hausse dans la même proportion parce qu'effectivement il reste plus grand chose. Je pense qu'effectivement Trump va essayer de continuer de mettre la pression. Enfin, il la met la pression très clairement jusqu'à aux élections de mi-mandat. Donc je pense qu'on va avoir
La Chine également,
mais la Chine est un producteur dans une moindre mesure. Mais les pays de l'OPEP vont essayer de faire deux choses. C'est essayer de se répartir la hausse de la production. et de créer vraiment un cadre un peu plus à long terme qui intègre évidemment la Russie. J'ai un doute sur leur capacité à produire plus. On sait que tous ces pays-là disent qu'ils ont une capacité additionnelle de production. Nous avons fait un exercice qui est le suivant. On a regardé quel était le plus haut niveau d'exportation de ces pays de l'OPEP ces 5 dernières années. Donc on a regardé les faits, pas des paroles. Surtout au mois de novembre 2016. Le mois de novembre 2016, c'était au moment où le deal a été effectué. Et donc tous ces acteurs ont exporté au maximum pour avoir une base pour réduire qui était plus intéressante. Aujourd'hui, ce niveau, on n'est plus qu'à 700 000 barils de ce niveau maximum qu'on a atteint en 5 ans. Donc globalement, si on regarde les exportations, il ne reste plus que 700 000 barils additionnels que les pays de l'OPEP peuvent rajouter. On va voir ce qu'ils vont communiquer. Mais dans les faits, je doute qu'ils ne puissent aller au-delà de ce niveau.
C'est ce qui explique l'autre préoccupation actuelle des Saoudiens et des Russes, ce soit d'encourager le retour aux investissements dans l'exploration et la production. Pour l'instant, ces investissements sont encore timides, malgré la remontée des prix. Or, comme on le dit, ce qui se profile dans les prochaines années, c'est une offre mondiale de pétrole qui pourrait manquer. Marc-Antoine Ailmazegam.
Alors, il faut voir deux choses. La première, c'est qu'il y a une croissance de la demande pétrolière mondiale qui a été d'à peu près plus 1,5 million de barils jour en moyenne ces dernières années. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Pardon, par an, excusez-moi, hein, pas par jour mais par an. Donc ça veut dire que en 5 ans, on a rajouté à peu près 7,5 millions de barils jour à la consommation mondiale de pétrole. L'offre, évidemment, s'est ajustée, mais il faut avoir à l'esprit que, bien sûr, l'offre d'un côté doit satisfaire cette demande supplémentaire, mais l'offre doit aussi venir remplacer la production qui décline dans un certain nombre de pays, de gisements, etc. Et en fait, le ratio est à peu près 3 millions de barils jour de production supplémentaire juste pour compenser la baisse des vieux gisements qui déclinent et 1,5 million de barils par an donc pour venir satisfaire cette demande supplémentaire. Donc il y a un effort d'investissement de production absolument colossal à fournir et l'interrogation est la suivante désormais, c'est qu'avec la chute des prix, les budgets d'investissement ont grosso modo été divisés, ça dépend des calculs, par 30, 40, 50%. Ça repart un petit peu à la hausse, mais enfin l'Agence internationale de l'énergie et certains autres analystes estiment que l'on pourrait finalement se retrouver dans une situation de sous-investissement et du coup que la production n'arrive plus finalement à atteindre les niveaux qu'il faudrait pour satisfaire cette demande. Et là, on serait dans un cycle haussier des prix.
Ouais. Des investissements technologiques qui sont potentiellement utiles pour par exemple exploiter ce nouveau champ de 80 milliards de barils de pétrole qui a été découvert en avril au Bahreïn, au large de ses côtes, soit le plus grand gisement pétrolier au monde, Philippe Chalmin.
Oui, mais là encore, il faut bien se dire que le temps du champ pétrolier est un temps long. Entre le moment où vous découvrez un gisement et le moment où ce gisement arrive à pleine production, il se passe très longtemps, surtout quand vous êtes dans des zones un peu difficiles. On en a un exemple célèbre qui est ce qui a dû être le plus grand champ pétrolier qui a ouvert ces dernières années, qui est le champ de Kachagan dans le nord de la Caspienne. C'est au Kazakhstan. Moi, Kachagan, ça fait 20 ans que j'en entendais parler. Alors, c'était des Kazakhs, ça a été mis en place par un consortium de compagnies. Au départ, c'était les Italiens d'Eni qui menaient ça. On est au nord de la Caspienne, donc il y a de la glace. Il fait très chaud en été, très froid en hiver. Il y a eu des problèmes avec le gouvernement kazakh, avec les Russes, etc. Toujours est-il que Kachagan, aujourd'hui, parle sous votre contrôle, je ne sais même pas s'ils sont à pleine production.
Non, pas encore, oui, ça monte.
Ils ne sont pas encore. Ouais, ouais. Mais ça aurait mis grossièrement, me semble-t-il, une bonne vingtaine d'années. Alors, le temps du pétrole de schiste est un temps court, par contre, puisque vous faites un trou, ça vous mettez 6 mois à faire votre trou, et puis vous allez exploiter votre petite chose pendant 2-3 ans. Alors maintenant, la durée d'exploitation est un peu plus longue, puis vous refaites un nouveau trou. C'est pour ça, d'ailleurs, que certains pétroliers se sont remis à investir. Par exemple, BP vient de payer pour 10 milliards de dollars les actifs que le mineur australien BHP possédés dans le pétrole de schiste aux États-Unis. Mais ça ne rajoute pas de la production. Et il faut bien se rendre compte aussi d'une chose. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie de la scène. C'est ce que j'appelle la malédiction du pétrole. Le pétrole n'apporte avec lui que du malheur, de l'incertitude et des risques. Il ne faut pas croire que les pays pétroliers sont des pays heureux. Au contraire, ce sont des pays qui deviennent dépendants. Et vous savez que
d'où
quand un drogué...
les politiques en ce moment pour diversifier justement leur rente pétrolière menée dans les pays du Golfe.
Enfin oui, enfin, c'est... écoutez, soyons honnêtes, l'Arabie Saoudite n'a pas commencé le plus petit... Enfin, ils ont des intentions mais ils ne les ont pas réalisées. Les Émirats du Golfe sont des Émirats d'opérette. Regardez la situation du Venezuela. Ça, c'est l'exemple même pour moi de la malédiction du pétrole. Mais regardez le Nigeria, regardez l'Angola. À une époque, Luanda avait les prix au mètre carré les plus élevés de toute la planète. Très rares sont les pays qui ont su gérer la rente pétrolière. Il y a un pays qu'on cite toujours en exemple, c'est la Norvège. Mais tout le monde n'est pas un protestant norvégien austère capable de mettre son argent de côté, de le faire fructifier et d'avoir un fonds qui aujourd'hui dépasse les 1000 milliards de dollars.
Pour en revenir aux États-Unis, Alexandre Andlauer, il ne faudrait pas non plus que les prix baissent trop pour les producteurs de pétrole américains, car ils ont quand même emprunté lourdement pour garder la tête hors de l'eau. Certains analystes disent que les exploitants américains ont besoin d'un minimum de 53 dollars le baril.
Je pense que c'est un peu élevé. D'ailleurs, le prix du pétrole localement, parce qu'en fait, c'est ce qui intéresse les producteurs sur place, en tous les cas pour ceux qui n'ont pas vendu en avance leur pétrole, il est allé à 50, voire sous les 50 dollars pendant quelques temps. On n'a pas vu de ralentissement. La dernière fois que la reprise a eu lieu dans le bassin de Permian, le baril était à 46 dollars. Donc je suis pas sûr, le 53 me semble un peu élevé, et de toute façon il y a une grande différence entre le prix du pétrole que nous on voit, le Brent, et le WTI aux États-Unis, et encore le WTI de Midland qui est encore 10 dollars en dessous. Donc
mais selon
je crois pas
vous, oui. Selon vous, pardon, est-ce qu'après les élections de mi-mandat, Donald Trump laissera plus facilement les prix s'envoler pour satisfaire l'industrie pétrolière américaine, et dans ce cas est-ce que le prix du baril pourrait dépasser les 100 dollars?
Je pense que malheureusement, Trump ne peut pas décider, d'ailleurs personne ne peut décider du prix du pétrole. On est dans une situation où s'il continue à vouloir bloquer l'Iran, on ne pourra vraisemblablement pas éviter une forte hausse du prix du pétrole pour rééquilibrer le marché, c'est-à-dire en cassant un peu la demande. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a eu moins d'investissements. Le pétrole, ça reste quand même assez cyclique, même si c'est des cycles un peu plus longs. Ça fait 3 ans qu'on est en sous-investissement. Les responsables, d'après moi, c'est plutôt les marchés financiers. Parce que si Total avait annoncé une hausse de ses investissements, l'action aurait chuté. Et en fait, c'est tout simplement parce que les investisseurs ont un doute sur le prix du pétrole à long terme. C'est ce qui freine aujourd'hui les investissements. Ils ont un doute à cause de la voiture électrique. Juste ou faux, mais ce doute-là existe. Et ils ont un doute par rapport à toute la réglementation qui peut se mettre en place sur tout ce qui est climate change. Donc, si vous voulez, ça ne sera pas à cause des pétroliers qu'on manque de pétrole, parce que c'est tout simplement qu'ils n'ont pas été incités par les marchés financiers, par les investisseurs à se lancer là-dedans. Et je pense malheureusement qu'on n'évitera pas encore des prix du pétrole qui vont fluctuer à la baisse, à la hausse, et là ça semble plutôt vouloir partir à la hausse.
Philippe Chalmin, sur cette flambée possible
J'ai deux éléments qui vont vous apparaître un peu contradictoires. D'une part, vous avez tout à fait raison de dire que pour l'instant Trump, il a un objectif, les élections de mi-mandat le 4 novembre, et donc son intérêt est que le prix de la gasoline ne soit pas trop élevé. Au-delà, si j'en ai bien compris quand même, il est en train d'assouplir toutes les contraintes environnementales mises à l'époque sous Obama à la production de pétrole et de gaz de schiste. Donc, cela pourrait quand même aller dans le sens d'une diminution des coûts de production. Je parle un peu sous votre contrôle, mais j'avais entendu dire que dans le Dakota du Nord, qui est une autre des zones de production, sortis du puits, ils étaient à un coût de production de 15 dollars. Auquel il fallait que je rajoute au moins une bonne vingtaine de dollars pour tirer mon pétrole vers les zones de raffinage. Donc il y a de la marge, et depuis qu'existe cette industrie du pétrole et du gaz de schiste, on a vu toujours quand même les coûts de production diminuer, que ce soit d'ailleurs pour le pétrole et encore plus pour le gaz. Donc ça irait plutôt dans le sens de l'augmentation du potentiel américain. Et à l'inverse, vous avez aujourd'hui sur les marchés financiers un certain nombre de gens qui jouent très clairement l'aggravation de la situation géopolitique. Pourquoi pas le blocage du détroit d'Ormuz? Parce que s'ils mettent les Iraniens aux abois, ça peut être une des réactions de l'aile radicale du gouvernement iranien. Et pour ne pas le nommer, un des investisseurs les plus connus sur le marché du pétrole, Endurant, qui est un Français installé à Londres, qui a un fonds de plusieurs milliards de dollars sur le pétrole, qui pour l'instant ne s'est pas souvent trompé par le passé, joue ouvertement à moyen terme le pétrole à $150 le baril. Moi, j'achète pas ce raisonnement, mais sur le marché, il y a des gens qui y croient.
Dans une récente tribune au Monde, il y a un chercheur dont le nom m'échappe qui expliquait que les États-Unis avaient tout intérêt, en effet, à ce que le Moyen-Orient soit en difficulté et à jouer justement les tensions au Moyen-Orient. Marc-Antoine et Ilma Zegam.
Oui, alors ça dépend. Il y a certainement une frange de l'administration Trump qui souhaite provoquer un régime change en Iran. Il y a évidemment certains qui souhaitent en découdre pour différentes raisons. Il y a évidemment la Syrie qui reste extrêmement inflammable. Si je puis me permettre l'expression, il y a une véritable guerre qui joue là-bas qui peut encore dégénérer et impliquer davantage les grandes puissances. Évidemment, il y a énormément d'instabilité. Mais dans ce contexte-là, il faut bien avoir à l'esprit une chose, c'est qu'une flambée du prix du pétrole à de tels niveaux aurait en fait finalement deux grands impacts. Le premier, c'est qu'il ralentirait extrêmement fortement la croissance économique mondiale, qui est en plein boom au cours des 6 premiers mois de l'année, qui va déjà probablement, dont l'accroissement va probablement être ralenti par la guerre douanière et tarifaire entre la Chine et les États-Unis. Mais donc cela, ça va avoir un effet donc ensuite baissier sur l'accroissement de la demande de pétrole. Cela va avoir aussi un effet à la baisse sur la croissance des émissions de CO2. Donc là, j'ai envie de dire plutôt une bonne nouvelle parce que l'année dernière, il y a eu une croissance de plus d'un pour cent, presque 1,5% des émissions de CO2. Cette année, cette croissance va se poursuivre. Donc ça, c'est absolument dramatique.
Un baril haut, c'est bon pour la planète.
Donc un baril haut, c'est plutôt bon pour la planète. Et effectivement, ça va pousser tout un tas d'acteurs à pousser la mobilité électrique, à essayer de se diversifier. Et donc... et enfin, je crois, dernier point, si des pays comme l'Arabie Saoudite décident de ne pas acheter uniquement des armes avec ses revenus supplémentaires, mais aussi effectivement d'investir dans le cadre de ce projet Vision 2030, ses revenus supplémentaires, peut-être que ce sera un électrochoc bénéfique.
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était Money and Oil de Cyril Neuville. On est toujours avec Philippe Chalmin, Marc-Antoine Elmazega, Alexandre Handlauer pour parler de la hausse des cours, de la production et de la demande de pétrole dans le monde. J'aimerais maintenant qu'on revienne sur la nouvelle alliance entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Une alliance scellée lors de la visite qualifiée d'historique du roi d'Arabie Saoudite en Russie. C'était il y a un an. Alors ce rapprochement a de quoi surprendre. L'Arabie Saoudite étant traditionnellement le fidèle allié des États-Unis. Est-ce que cela signifie que le partenariat exclusif avec Washington est arrivé à terme, Marc-Antoine Elmazega ?
Non, absolument pas. Ce partenariat est structurant. Le Mohamed bin Salman s'est rapproché des États-Unis. La crise de confiance de l'époque Obama est passée. Il est évident que les Saoudiens exporteront beaucoup moins de brut vers les États-Unis qu'avant. Cela dit, l'Arabie Saoudite reste le premier client des États-Unis pour les achats d'armement. Et enfin, le président Trump adore les Saoudiens. Cela dit, les Saoudiens sont un petit peu dans une situation d'incertitude face à son imprévisibilité et cherchent finalement à diversifier leur partenariat, sachant que la Russie a fait son grand retour au Moyen-Orient à travers son intervention militaire en Syrie, qui finalement a surpris tout le monde par son efficacité et c'est finalement logique. Cela reflète ce changement des équilibres dans la région.
Mais alors justement, est-ce que cette alliance peut durer alors que donc les pays sont clairement opposés, surtout en effet dans le conflit syrien, mais aussi dans une moindre mesure dans le conflit yéménite? Je rappelle que dans le passé, ce qui avait empêché un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et la Russie, c'était des questions politiques et géopolitiques, c'était les guerres de Tchétchénie dans les années 90, c'était les printemps arabes à partir de 2011. Aujourd'hui, est-ce que ces questions politiques, géopolitiques pourraient être dépassées pour que cette alliance dure?
Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est pour l'instant une alliance de circonstances. C'est une visite qui a été effectivement historique parce que les deux pays n'entretenaient pas de relations diplomatiques pendant l'URSS, l'époque soviétique. Il faut bien voir aussi que le niveau d'échanges commerciaux entre les deux pays est extrêmement faible, qu'il n'y a pas d'investissement croisé, etc., etc. Donc, c'est un balbutiement, mais c'est vrai que politiquement, leur gestion commune des marchés pétroliers au sein de cette alliance OPEP+, est assez exceptionnelle. Et le paradoxe, il faut s'en rappeler, c'est dans les années 80, lorsque l'Arabie Saoudite a fortement augmenté sa production de pétrole, qu'elle a contribué à accélérer l'effondrement économique de l'URSS, parce que les prix avaient alors chuté. Et donc, cette alliance de circonstances n'en est pas encore vraiment une.
Et alors justement, ce rôle croissant joué par la Russie, notamment avec les pays de l'OPEP, est-ce que c'est le signe de la perte de vitesse de l'OPEP qui a été créée, je le rappelle, en 1960? Perte de vitesse peut-être aussi aggravée par les dissensions internes de plus en plus vives entre les pays membres?
Absolument. Alors, il faut bien voir une chose, c'est que un cartel, ça ne marche que si vous êtes capable, de façon crédible, d'augmenter votre production quand vous le décidez, ou de la baisser fortement quand vous le décidez. Or, au sein de l'OPEP, qui d'autre que l'Arabie Saoudite peut le faire? Éventuellement un tout petit peu le Koweït, mais je ne vois pas beaucoup d'autres producteurs qui aient cette capacité de le faire et qui aient du coup les reins financiers, etc., assez solides pour aussi décider que on va se priver de 300 à 400 000 barils par jour d'exportation. Parce qu'on est dans une stratégie de restrécissement de l'offre.
Alors justement, Philippe Chalmin.
Oui, je crois que les grands gagnants de ces deux dernières années, d'un point de vue diplomatique et géopolitique, ce sont les Russes, qui profitent quand même de la décrédibilisation de la politique extérieure américaine, qui part un peu dans tous les sens, que ce soit sur l'Iran, que ce soit sur l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, que ce soit dans le soutien à une Arabie Saoudite dont, honnêtement, la crédibilité dans ses interventions extérieures est quand même assez limitée. La guerre au Yémen ne sera ni gagnée ni perdue, mais est un désastre humanitaire. L'embargo sur le Qatar, on se demande exactement ce que cela signifie. Et au même moment, il ne faut pas oublier que l'Iran est quand même l'allié naturel de la Russie. L'Iran a quasiment annexé une grande partie de l'Irak. Ce sont des intérêts russes. C'est Rosneft, me semble-t-il me souvenir, qui a repris le contrôle de l'oléoduc qui sort le pétrole du Kurdistan irakien vers la Turquie. Donc, il y a... Je reprends cette idée du grand jeu. Vous vous souvenez, le grand jeu, c'était l'opposition entre la Russie tsariste et l'Empire des Indes en Afghanistan et ailleurs à la fin du 19e. Ben aujourd'hui, on a un grand jeu au Moyen-Orient. Je dois avouer que Poutine le mène tout à fait admirablement et que là-dessus, les États-Unis, me semble-t-il, sont totalement décrédibilisés. L'alliance qui paraissait naturelle, le pacte, je ne sais plus quel était le nom de ce navire sur lequel Roosevelt avait rencontré Mtsehoud pour sceller une sorte de pacte et d'accord entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, aujourd'hui, ça n'a plus tellement quand même de valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, l'OPEP, il a eu son moment de gloire exactement entre 1973 et 1985. Entre 1973 et 85, l'OPEP est un cartel offensif, il décide du prix du pétrole. Depuis, il subit le marché. On a eu une petite période 2011-2014 où l'Arabie Saoudite s'est substituée un peu à l'OPEP pour assurer le rôle de producteur de dernier recours. Et aujourd'hui, vous avez raison, c'est OPEP plus. Mais comme la Russie ayant moins de marge de manœuvre, tout repose pratiquement sur l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai que on a ce lien improbable entre Riyad et Moscou, mais qu'on peut lire au niveau pétrolier, au niveau géopolitique. Il faudrait probablement intégrer la Turquie d'Erdogan là-dedans. Et vous comprendrez que si vous êtes un investisseur pétrolier aujourd'hui, vous vous dites, il y a tellement de risques, il y a tellement de bombes plus ou moins existantes prêtes à exploser, qu'il y a quelques raisons d'imaginer que ça peut monter.
Alexandre Andolower, l'OPEP, selon vous, est en train de devenir une coquille vide ?
Alors, déjà pour parler un peu de l'OPEP et de la Russie, je pense que cet accord était nécessaire parce que évidemment les États-Unis prenaient un peu plus de poids et aussi parce que on voyait bien qu'il y a de plus en plus de dissensions au sein des pays de l'OPEP. Quand vous avez ces réunions-là, c'est très souvent quand même la voix de la Russie qui est écoutée. J'ai l'impression que les Russes, donc représentés par Alexander Novak, tiennent le jeu. Je suis pas sûr que ça durera très longtemps, mais en tous les cas, cet accord a été fait tout simplement parce que dans le contexte du prix du pétrole plus bas, il n'avait pas d'autre choix que de faire cela. Alors, d'un côté, ça arrange comme un peu l'Arabie Saoudite d'une pour vis-à-vis de l'Iran. Ça donne un peu plus de poids. On voit bien que la Russie est rangée plutôt du côté de l'Arabie Saoudite. Ce sont les deux pays qui décident et qui vont voir ensuite les autres acteurs pour échanger sur ce qui peut être fait. Et ça donne évidemment un poids plus important. On parle quand même de quasiment 43 millions de barils par jour OPEP plus Russie sur quasiment 100 millions de produits.
Un poids essentiel. Mais alors la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette demande va continuer à augmenter et surtout jusqu'à quand? Selon l'Agence internationale de l'énergie, la croissance de la demande de pétrole faiblirait après 2025. Alors est-ce que ce sera lié à la consommation de pétrole qui diminue à cause des voitures électriques, et en même temps on a un secteur pétrochimique qui ne cesse d'augmenter. Quel est votre avis là-dessus, Marc-Antoine Elmazega?
Je crois qu'il faut bien voir une chose. La consommation du secteur automobile dans le monde représente à peu près peut-être 18 à 20% du total de la demande. Le reste, c'est le transport aérien, c'est le fret routier, c'est le diesel pour les locomotives, notamment en Chine et en Russie, au Kazakhstan, etc. Et c'est surtout la pétrochimie, vous l'avez dit. L'on peut tout à fait s'imaginer que dans un horizon de 10 ans, il y ait effectivement un pic de la demande du secteur automobile. Parce que il y aura eu les véhicules électriques qui auront fait leur percée, parce que il y aura eu davantage de transport au gaz compressé, voire éventuellement à l'hydrogène pour le fret lourd. Donc ça c'est quelque chose de tout à fait vraisemblable.
En revanche, les autres secteurs risquent de voir leur demande de pétrole augmenter.
Absolument. Il suffit de regarder le carnet de commandes d'Airbus et de Boeing pour les 10 prochaines années. Vous voyez bien que le transport aérien va continuer de croître très 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 fortement, ce qui va tirer la demande. Alors les nouveaux avions sont plus efficaces, mais si vous gagnez 20% d'économie de carburant sur un nouvel avion et vous en rajoutez 3, forcément, cela fait quand même au final une très forte augmentation. Et puis la pétrochimie, elle est partout et elle ne fait, elle, que de croître sans arrêt. Alors, évidemment, ici et là, on voit des initiatives, des pays qui interdisent les plastiques, etc.
Qui veulent remplacer le pétrole par le gaz dans la pétrochimie.
Oui, alors ça va être très lent, ça ne se fera pas partout, et là encore, le gros de la demande est dans les pays émergents, et c'est un enjeu économique primordial là-bas, donc ça risque de continuer de se poursuivre.
La pétrochimie qui pourrait représenter un quart de la demande de pétrole dans les 5 prochaines années, selon le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Philippe Chalmin. On a un exemple aussi en Norvège, la consommation de pétrole a augmenté de 1%, alors même que la Norvège est l'un des leaders mondiaux des voitures électriques.
Oui, et vous avez tout à fait raison de souligner que certes, le secteur des transports au sens large, c'est le domaine où le pétrole est le moins facilement remplaçable, et que, bon, on est tous obsédés par les voitures électriques, les trottinettes électriques, les vélos électriques, etc., ça ne représente pas l'essentiel. Je suis tombé, ça vaut ce que ça vaut, sur une étude d'un consultant international qui est Wood Mackenzie, qui donne un pic de la demande de pétrole pour 2036. J'adore la précision, en 2036, la demande de pétrole commencera à baisser. Ça vaut ce que ça vaut, c'est vrai que pour l'instant, d'un point de vue purement climatique, nous sommes toujours dans l'âge du pétrole et du charbon. Nous rêvons tous, à la fin de ce siècle, d'être dans l'âge du renouvelable et du décarboné. Entre les deux, moi je vois quand même le gaz naturel. Je pense qu'il y aura une période gaz naturel importante. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et force est de constater que ce pétrole, il reste quand même pratiquement, malheureusement, irremplaçable. Alors, plus il sera cher, si nous voulons porter quelque chose pour les générations futures, réjouissons-nous quand le pétrole est à 150, 200, 250 dollars le baril, parce que c'est la seule manière de nous rendre raisonnables.
La paix pétrole, moins d'actualité que jamais, si je vous comprends bien, et cela alors qu'en 2016, il y avait une étude publiée dans la revue Nature qui estimait qu'il faudrait, au niveau mondial, laisser dans le sol un tiers des réserves de pétrole pour avoir une chance de rester sous les 2 degrés. Un grand merci à tous les trois, c'est la fin de cette discussion, Marc-Antoine Elmazega, Alexandre Andlauer et Philippe Chalmin, et merci aux techniciens des bureaux de Radio France à Strasbourg qui ont permis ce duplex. Et aujourd'hui, on décortique Le retrait de l'État par Suzanne Strange, un ouvrage paru en 1997. Et c'est Christian Chavagneux qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à Alternatives économiques et rédacteur en chef de la revue L'économie politique. Alors Suzanne Strange, pour la présenter en quelques mots, c'est une journaliste britannique née en 1923. Elle a été la plus jeune correspondante nommée à la Maison Blanche. Elle travaillait alors pour l'hebdomadaire The Observer. Elle va ensuite, en tant que chercheuse, cette fois, développer une nouvelle approche de l'économie politique internationale, on y reviendra. Mais d'abord, commençons par la thèse de son livre, Le retrait de l'État. Suzanne Strange y explique que le pouvoir des États ne cesse de reculer dans l'économie mondiale au profit d'autres acteurs non étatiques, dont les multinationales. Et elle cherche à montrer comment et pourquoi on en est arrivé là, pour reprendre ses propres mots.
Vous l'avez dit, c'est une question sur le pouvoir en fait. Qui dirige l'économie mondiale? Qui est capable d'écrire les règles du jeu dans lesquelles les autres acteurs vont s'inscrire? Les économistes, ils vous disent traditionnellement, c'est les États qu'ont décidé les États-Unis ou les États ensemble. Qu'est-ce qu'a décidé le G20 ou le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale? Strange dit attention, dans les acteurs capables d'écrire les règles du jeu de la mondialisation, les règles dans lesquelles les autres vont devoir s'inscrire, obéir à ces règles, eh bien il y a beaucoup d'autres acteurs, les acteurs privés de manière générale, dans lesquels elle met, vous l'avez dit, les multinationales, mais aussi les organisations non gouvernementales, mais aussi les mafias par exemple.
Et alors justement, ces mafias, ces multinationales, ou encore ces banques ou ces ONG, comment ces acteurs non étatiques influencent-ils les règles du jeu de la mondialisation?
Alors là, il y a plusieurs créneaux possibles. Par exemple, vous avez, quand vous voulez comprendre ce que c'est qu'une entreprise, vous regardez sa comptabilité. Qui écrit les règles comptables? Aujourd'hui, les règles comptables internationales, elles sont écrites par des grands cabinets d'avocats, par exemple, des grands cabinets de comptables qui ont tendance à écrire les règles du jeu de telle sorte qu'une entreprise soit mesurée comme une somme d'actifs qu'on peut acheter et vendre comme on veut. comme un marché financier, non pas comme vraiment un collectif qui doit durer dans le long terme, faire attention à son rôle social, attention à ses salariés, voilà, par exemple, et créer les infrastructures de la mondialisation comme les normes comptables. À l'inverse, vous avez, ou à l'opposé, vous avez des banques, par exemple, qui à la fin des années 90 sont capables d'écrire les règles du jeu de la régulation financière. Donc là, on va du plus petit, écrire les infrastructures, les règles du jeu qui permettent de définir les infrastructures de la mondialisation, jusqu'au plus gros, j'écris les règles qui concernent mon secteur.
Alors, contre ceux qui pourraient critiquer cette idée d'un recul de l'État qui détient tout de même un pouvoir de régulation, Susan Strange explique qu'il s'agit moins de la quantité d'autorité exercée par les États que de la qualité de cette autorité.
C'est ça, c'est que elle s'adresse aux spécialistes de relations internationales qui pensent le pouvoir comme un pouvoir relationnel. C'est comme un gros costaud face à un petit. Le gros costaud, il est plus fort. Non, nous dit Strange, le pouvoir dans le monde, il est beaucoup plus subtil que ça. C'est du pouvoir qui est structurel, c'est-à-dire, encore une fois, la capacité dans des structures un peu clés de la mondialisation, la sécurité, la production, la finance, le savoir, d'être capable d'écrire les règles du jeu. Et ça, les États, bien sûr, peuvent écrire des règles du jeu, mais d'autres acteurs peuvent le faire aussi.
Alors, le problème qui est soulevé par Susan Strange, c'est qu'une partie de cette puissance perdue par les États n'a pas été transférée à d'autres acteurs vraiment identifiables. Alors, en quoi consiste cette zone de non-gouvernance dont elle parle?
C'est ça, c'est l'un des résultats de la méthode Strange, c'est que d'un côté, les États-Unis restent quand même l'État le plus puissant. De l'autre côté, tous les États, y compris les États-Unis, doivent faire face à la montée en puissance des acteurs privés, multinationales, mafias, ONG. Mais il y a des zones, le droit international, la finance internationale, où les règles sont finalement peu écrites et où personne n'a voulu le résultat qui est donné. Elle est déjà en train de prendre cet exemple alors qu'on n'en parle qu'aujourd'hui, les paradis fiscaux. Elle nous dit personne n'a voulu les paradis fiscaux. Ni les États-Unis, ni les Caïmans, ni la Suisse n'ont voulu bâtir un système mondial de toile d'araignée où l'argent opaque va aller se cacher. Et pourtant, les paradis fiscaux, on le constate, ils sont là. Voilà, ce sont des zones de non-gouvernance internationale.
Et alors, qu'est-ce qui rend la thèse de Susan Strange si originale à l'époque? Parce que je rappelle que son livre, Le retrait de l'État, est publié en 1997.
Alors, je crois même que c'est 96 pour la première édition, je crois. Qu'est-ce qui le rend original? C'est que personne ne répond à cette question. Les économistes, les questions de pouvoir, ça les intéresse pas. On peut pas le mettre dans les modèles, on peut pas le quantifier. Les spécialistes de relations internationales, eux, ce sont des spécialistes de sciences politiques. Les questions de pouvoir, ça les intéresse, mais en économie, ils sont nuls, il faut le dire. Et donc Strange dit, vous l'avez dit dans votre introduction, elle bâtit une nouvelle approche. L'économie politique internationale, c'est mélanger les enseignements de l'économie internationale, de la politique internationale, tout ça en longue durée. Elle a lu Brodel dans tous les sens et avec ses trois disciplines qu'elle essaye de mélanger, elle crée une nouvelle approche et ça c'est complètement original.
Et alors justement, comment est-ce qu'on peut définir précisément ce courant de pensée de l'économie politique internationale? Il faut dire peut-être qu'il y a une école américaine contre laquelle Susan Strange se positionne, elle crée alors l'école britannique.
Oui, tout à fait, il y a une école américaine qui existe depuis le début des années 70 et qui en fait, comme dit Susan Strange, singe les économistes, c'est-à-dire qu'on fait des beaux modèles théoriques dans lesquels il y a un agent représentatif qui est en interrelation, en interaction avec un autre agent représentatif, un état A, un état B, on fait des grands modèles théoriques. Strange dit, attendez, la réalité, c'est pas ça. Il faut rentrer concrètement. Qui dirige la finance internationale? Est-ce que Apple dirige vraiment le marché des téléphones portables? Elle rentre toujours dans le concret et son livre est plein d'exemples concrets. Le rôle des assureurs, le rôle des agences de notation, le rôle des financiers, etc. etc. Elle dit, il faut absolument qu'on ait une approche, une méthode d'analyse de la mondialisation et de l'analyse du pouvoir dans la mondialisation qui sorte des modèles. Et ça, c'est cette approche britannique qui va essaimer un petit peu partout dans le monde, sauf en France.
Alors justement, Susan Strange a été professeure à la London School of Economics, où elle réussit à imposer la création d'un master en économie, oui, politique internationale. Comment expliquer que ça n'ait pas pris en France?
Eh ben, c'est très difficile à comprendre. Je pense que les économistes français sont vraiment enfermés dans leur bulle modélisatrice et quantitative. Et donc les questions de pouvoir, comme disait l'un des grands économistes français, Léon Valras, qu'un économiste, enfin que quelqu'un prenne un poison pour guérir quelqu'un ou pour le tuer, du point de vue de l'économie, bah pour nous, ça ne nous intéresse pas. Toutes ces questions de pouvoir, de rapport de force, ce n'est pas pour nous. Et du côté des relations internationales, il y a une toute petite, quelques professeurs, notamment à la Sorbonne, qui se sont intéressés aux écrits de Susan Strange, comme Joseph Laroche, mais à part ça, ça n'a jamais pris.
Alors depuis l'apparition de son livre, donc en 1996, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la tendance d'un pouvoir croissant des marchés n'a fait que s'accentuer.
Oui, tout à fait. Le pouvoir croissant des multinationales en général, au-delà des marchés financiers, oui, bien sûr, les grandes multinationales sont capables d'écrire les règles du jeu, par exemple de la propriété intellectuelle. Jamais aujourd'hui, dans toute l'histoire du monde, depuis qu'il y a de la propriété intellectuelle, on a une protection de cette propriété qui va aussi loin, qui dure aussi longtemps. C'est pour se constituer des rentes de situation. Et Susan Strange le démontre. Elle dit... Il ne faut pas parler du pouvoir des multinationales en général. Elle dit qu'il y a un vrai triangle diplomatique qui est les relations entre les États. Ça, on les connaît. Les relations entre les États et les firmes, on les connaît. Mais il y a une diplomatie qu'on étudie très peu, qui est la diplomatie entre les firmes. Et par exemple, sur la propriété intellectuelle, sur les médicaments, sur les films, c'est le résultat d'un travail politique très fort de diplomatie entre les firmes.
Alors, il y a une autre grande thèse de Susan Strange qui est évidemment liée à la première, c'est que pour elle, le pouvoir au cœur de l'économie politique peut être exercé de nombreuses façons. Et par exemple, dans des structures, ce que vous commenciez à évoquer, plutôt que dans des relations directes avec les entités. Alors, qu'est-ce que ça signifie, Christian Chavagneux?
C'est vraiment très très fort, ça, parce que toute la science politique internationale, elle pense le pouvoir comme quelque chose de relationnel. Quel est le plus fort de nous deux? Voilà, c'est ça la question. Et Strange dit, non, c'est pas ça la question qu'il faut poser, c'est qui va écrire les règles du jeu qui vont faire qu'on va savoir où on va produire des choses pour l'économie mondiale. Qui va produire et où et à quelles conditions? Ça, c'est la structure de production. Qui va pouvoir avoir accès à des crédits et à quel taux d'intérêt? À quel prix? Ça, c'est la structure de finance. Qui va être capable de définir les menaces et les protections face aux menaces? Ça, c'est la structure de sécurité. Et enfin, il y a la structure des savoirs. Qui est capable d'emmagasiner des informations, de les stocker, de les faire circuler? Elle pense, alors qu'il n'y a pas les GAFA encore, et quand elle écrit ça. Et pourtant, elle a déjà ça en tête.
Elle pense en effet à quatre structures: la sécurité, la production, la finance et le savoir. Et c'est dans la sécurité que l'État est encore le plus présent.
Oui, tout à fait. L'État est encore présent dans la capacité à définir et à nommer quelles sont les menaces et quelles sont les menaces vis-à-vis desquelles on peut être protégé. Et elle écrit déjà, on est en 1996, que les menaces de demain, c'est la guerre nucléaire possible et le terrorisme. Donc il y a une préscience dans l'analyse de Susan Strange. Elle dit là, oui, les États-Unis restent le pouvoir, l'État hégémonique.
Alors Susan Strange a été critiquée par les économistes orthodoxes pour avoir fourni un diagnostic et non pas un modèle qui permet de prévoir l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Tout à fait, elle le revendiquait, elle n'était pas du tout une théoricienne. Susan Strange s'attaque à une question quand même extrêmement difficile. Qui détient le pouvoir dans l'économie mondiale? Ça demande de s'intéresser à tellement de sujets qu'elle dit, est-ce que quelqu'un peut avoir l'outrecuidance de nous dire je vais vous fournir une théorie de l'évolution du pouvoir dans le monde. Elle dit non, moi je fournis une méthode de diagnostic. Parce que Susan Strange, il faut le comprendre, contrairement aux économistes qui se croient très positifs, ils sont neutres, Susan Strange revendiquait la normativité de ses analyses. Moi, je comprends le pouvoir, et si le pouvoir ne me va pas, si les valeurs qui sont mises en avant par ce pouvoir, est-ce que c'est la liberté, est-ce que c'est la justice, est-ce que la sécurité, si ça ne me va pas, alors je regarde où sont les nœuds de fragilité des accords qui ont été trouvés, et je change le monde. Elle revendique une normativité par une méthode de diagnostic, surtout pas par une grande théorie.
Donc finalement, le fait de ne pas créer de modèle, c'est la force de Susan Strange, selon vous?
Je pense que c'est en tout cas, ça donne à tous ceux qui veulent essayer de comprendre les rapports de force dans le monde, le pouvoir dans le monde, un outil, une méthode de diagnostic qui est incomparablement puissante, puisqu'il faut rappeler qu'elle est décédée en octobre 98 et qu'en janvier 99 sort son dernier papier de manière posthume. Et elle dit, je pense que les trois sujets sur lesquels le monde va devoir réfléchir demain, c'est les inégalités, c'est l'instabilité financière et c'est le réchauffement de la planète. Je crois que c'était vraiment très très bien vu.
Belle prophétie, en effet. Et Susan Strange conclut le retrait de l'État en renvoyant l'avenir de la régulation mondiale au problème de Pinocchio. C'est l'idée qu'une fois détachée de ses fils, la marionnette a dû choisir elle-même quelle autorité respecter. Est-ce que c'est comme ça, selon vous, que se dessine la gouvernance mondiale?
Non, alors ça, j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer plusieurs fois Susan Strange. Déjà, elle lui a dit, je ne suis pas d'accord avec ton argument final. Elle décrit des forces extrêmement puissantes, systémiques, mondiales, et renvoyer la réponse à ces forces systémiques à l'action individuelle. Je dis non, ça va pas, et c'est vraiment plus dans l'action collective, politique, qu'il faut être capable de répondre à ses forces.
Pour conclure, en quelques mots, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment lire Susan Strange, selon vous, Christian Chavagneux?
Parce qu'aujourd'hui, si on veut changer le monde, il faut le comprendre, et si on veut le comprendre, il faut savoir qui est capable d'en écrire les règles du jeu. Et si on en reste aux approches des économistes traditionnalistes, aux approches des spécialistes de relations internationales, on ne pourra pas comprendre le monde.
Donc pour vous, 20 ans plus tard, elle est profondément actuelle?
Elle est non seulement actuelle, mais comme j'essaie de le montrer, presciente, et elle nous donne des outils qui sont d'une force incommensurable.
Merci beaucoup, Christian Chavagneux.
On se quitte sur Texas Oil de Freddie King. La semaine prochaine, entendez-vous, l'écho prend le large. L'économie bleue en 4 épisodes, c'est à écouter à partir de lundi à 14h sur France Culture. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr en podcast et rendez-vous également sur Twitter, hashtag entendez-vous l'écho.